Bonjour Julien de Normandie.
Bonjour.
Ministre chargé de la ville et du logement, 7 grandes entreprises françaises pointées du doigt pour des présomptions de discrimination à l'embauche après un testing que vous avez rendu public au gouvernement il y a quelques heures. Discrimination évidemment selon le patronyme, selon que ce patronyme est européen ou maghrébin. L'État est actionnaire de 2 des entreprises pointées du doigt, Air France et Renault. Est-ce que les représentants de l'État ont reçu des consignes pour donner des suites dans les conseils d'administration?
Ce qui est sûr, c'est que lorsque le gouvernement, le ministre que je suis, lance cette grande étude de testing, il faut savoir que c'est 10 000 CV qu'on a envoyés. D'un côté avec Nicolas Leroy et de l'autre côté avec Mohamed Chetou. Toutes ces CV sont les mêmes, sauf que les noms changent. Et ce qu'on observe, c'est que vous avez effectivement dans un cas 25% de chances de moins d'avoir une réponse quand vous appelez Mohamed Chetou. Et donc ce rapport, il pointe du doigt une réalité que beaucoup de nos concitoyens vivent au jour le jour, mais que là on matérialise en disant, cette prise de conscience, elle est nécessaire, parce que cette discrimination à l'embauche, elle perdure dans notre pays. Et elle nuit à notre démocratie, elle nuit au fondement de notre République, elle nuit à la cohésion de la nation. Et donc il faut les changer. Mais ça arrive dans le privé, et ça arrive aussi dans le public. Et donc on doit tous être exemplaires en la matière, d'abord en prenant conscience de la chose, et deuxièmement, en changeant un certain nombre de méthodes dans les recrutements, dans l'évolution de nos agents au sein des structures, et c'est un travail très important à mes yeux.
Changer de méthode, dites-vous, c'était le sens de ma question, est-ce que dans les entreprises Air France ou Renault qui sont citées dans cette enquête, est-ce qu'il y aura des consignes pour donner suite?
Typiquement, on demande à ces entreprises de participer à une dynamique qu'on a lancée qui s'appelle le pacte, PAQ pour quartierte.fr, qui est en fait un ensemble de nouvelles méthodes qu'on veut diffuser partout. Des méthodes dans les structures de recrutement, en utilisant aujourd'hui tout ce que des spécialistes peuvent offrir à ces entreprises. Je prends un exemple, une association formidable qui s'appelle Mosaïque RH, qui permet à chaque entreprise de diversifier ses talents en allant proposer des bases de données de jeunes issus de territoires, de quartiers prioritaires de la ville, pour lesquels les entreprises ont moins l'habitude d'aller chercher ces
talents.
Mais sans
aller jusqu'à établir des quotas.
Non, parce que moi, vous savez, ça c'est le thème de la discrimination positive. Moi, j'aime pas ce terme-là. Je pense que le talent de quelqu'un n'est jamais attaché à son nom ou à son prénom. Que le talent de quelqu'un, il est attaché à ce qu'il est dans le plus profond de lui-même. Et qu'une discrimination positive viendrait balayer d'un revers de la main cette méritocratie républicaine qui est si importante et qui est dire que le talent, c'est ce que vous êtes. C'est pas la façon dont vous vous appelez. C'est pas les origines que vous avez. C'est ce que vous êtes. Et donc, à partir du moment où je dis que je suis pas favorable à une discrimination positive, ça oblige encore plus à travailler ce qu'on fait avec Jean-Michel Blocker dès l'école et notamment les études, parce que on voit bien aujourd'hui qu'il y a des plafonds de verre. Et puis avec les entreprises, dans cette initiative que vous mentionnez tout à l'heure, pacte.fr, qui donne de nouveaux outils, qui permet de changer les choses. Et c'est ça qu'on fait, mais avec beaucoup de force.
Pas de discrimination positive, en tout cas ce n'est pas votre tasse de thé. Et le CV anonyme, sans photo, ni nom, ni adresse, est-ce une solution pour les habitants des quartiers qui ont mauvaise réputation?
Moi je pense pas. Je pense pas, parce que en fait une relation entre un recruteur et quelqu'un qui cherche à être recruté, ça ne se limite pas à l'envoi d'un CV, c'est un rendez-vous ensuite. Et donc le CV anonyme, c'est là aussi une fausse solution pour un vrai problème, parce que ça laisserait penser que simplement du fait de l'envoi où vous n'auriez pas votre patronyme, tout pourrait être résolu. C'est faux, ça se passe pas comme ça. Et donc encore une fois, pour moi, c'est d'abord cette prise de conscience, et c'est pour ça que j'ai voulu ce testing plus grand jamais réalisé, fait par un chercheur du CNRS, non pas pour être dans une posture de dénonciation, mais surtout d'être dans une position de prise de conscience, de dire à chacun, vous savez, évidemment que lorsque vous discriminez, ça n'est pas volontaire. Évidemment, ces entreprises que vous mentionnez, ce n'est pas des démarches volontaires de leur part. Mais ce sont des habitudes, ce sont des process récurrents qui, à la fin, amènent à la discrimination. Donc, prise de conscience, 2, outils nouveaux qu'on met à disposition pour accompagner les entreprises. Et beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, y travaillent ardemment.
La méthode utilisée pour cette enquête, c'est ce qu'on appelle en anglais le name and shame, cher d'ailleurs à Emmanuel Macron, c'est-à-dire jeter des noms en pâture, des noms d'entreprises en pâture pour qu'elles aient honte éventuellement. Et on sait que les réseaux sociaux vont s'en emparer après, avec la violence que l'on sait, pour des fautes qui ne sont jusqu'ici pas avérées. Est-ce que ce n'est pas un peu la limite de cette méthode du name and shame, cher à Emmanuel Macron? Ben,
vous savez, moi je pense que quand vous voulez prendre conscience d'un fléau dans notre société, parce qu'il faut bien avoir en tête que la discrimination, beaucoup de nos concitoyens la vivent à l'embauche, ils la vivent aussi pour avoir un logement, par exemple, ils la vivent dans la vie de tous les jours. Et qu'est-ce que vous faites face à ça? Vous restez les bras croisés en disant c'est pas très grave? C'est cette réalité. On sait tous que notre pays a des pratiques encore discriminantes à bien des égards. Et pour autant, les choses ne bougent pas assez vite. Alors comment vous faites bouger les choses? Ben en bougeant des lignes. Et comment vous faites bouger des lignes? Eh ben, vous mettez en avant parfois des résultats qui dérangent, parfois des méthodes qui peuvent interpeller.
Oui,
parfois on prend la liste des entreprises, parfois des choses qui on préférait ne pas les faire.
Je voulais vous citer.
Moi, je pense que c'est comme ça que vous faites bouger les lignes. Et je crois que notre République en a besoin.
Je vous donne juste l'exemple de Air Liquide, qui fait partie des listes pointées du doigt pour de la discrimination à l'embauche. Air Liquide qui se targue, au contraire, de pratiquer de la discrimination positive avec justement une attention particulière pour les candidats dont le nom, dont le patronyme ne sont pas européens. Est-ce que ce n'est pas là justement la limite du name and shame?
Mais vous aurez toujours des limites quand vous faites des études. D'autres nous ont dit, oui, vous envoyez des CV, pas uniquement pour répondre à des annonces, mais vous avez fait aussi des candidatures spontanées. Et certains disant, bah, la candidature spontanée, ça biaise un peu les résultats. Quand vous faites une étude, vous avez toujours des limites. Par contre, ce qui est sûr, c'est que se cacher uniquement derrière des limites méthodologiques pour ne pas voir une réalité qui concerne notre société, ça, ce serait une erreur. Donc moi, ce que j'ai voulu, c'est rendre tout transparent. J'ai pris le rapport, je l'ai publié avec ma collègue Muriel Pénicaud et ma collègue Marlène Schiappa, en publiant aussi, de manière très claire, voilà comment cette étude a été faite. De manière très claire. Et sur cette base, de pouvoir dire à chacun, bah, prenons cette conscience-là, continuons à travailler, je relance un nouveau testing, on va retester...
Vous allez tenir compte des critiques sur la méthodologie?
Bien sûr, mais on relance un nouveau testing sur à nouveau 40 entreprises tirées au sort parmi les 120 plus grandes. Et puis surtout, on continue à développer, et j'appelle vraiment toutes les entreprises à nous rejoindre dans cette initiative qui s'appelle le pacte.fr, ou à utiliser un dispositif qu'on a créé qui s'appelle les emplois francs, qui permet aux entreprises d'avoir un coup de pouce financier quand ils vont embaucher des jeunes, par exemple, issus des quartiers, 5000 euros par an pendant 3 ans.
Il y aura un nouveau testing, dites-vous, qui va donc tenir compte des critiques, puisque 6 des 7 entreprises soupçonnées de discrimination à l'embauche contestent la méthodologie que vous avez utilisée, que cette étude a utilisée, parce que ce seraient donc des CV envoyés hors procédure habituelle, hors des radars, et donc ça ne reflète pas la réalité des entreprises.
Je dis dont acte, mais en même temps, ça veut dire quoi? Aller au bout de cette phrase, c'est-à-dire qu'en fait, des CV ont été envoyés, pas dans le process de recrutement habituel, mais à des services RH. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que le retour n'est pas le même si vous appelez Nicolas Leroy ou Mohamed Chetou. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là aussi, ça n'est évidemment pas des procédures délibérées de la part de ces entreprises. Mais ça veut dire que la discrimination, dans notre pays, dans nos structures, elle existe à tous les étages.
Ça veut dire aussi que les entreprises ne répondent peut-être pas lorsque la procédure d'embauche n'est pas correspond pas au process.
Sauf qu'elles ne répondent pas de la même manière. Elles répondent plus si c'est un Nicolas Leroy qu'un Mohamed Chetou. Et j'insiste dessus parce que vous savez, la discrimination, ça nuit à deux moments. Au moment de l'embauche, mais au moment de l'évolution dans l'entreprise. C'est ce fameux plafond de verre que beaucoup de nos concitoyens ressentent. Et ça, c'est un sujet sur lequel il faut aussi lutter avec beaucoup de force. Parce que le jour où, en fait, tout le management intermédiaire sera diversifié, bah, cette discrimination, elle existera beaucoup moins dans notre pays.
Je vous coupe parce qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser ce matin. Julien de Normandie, ministre en charge de la ville et du logement, question notamment ce matin sur la méthode Macron. Sa méthode budgétaire et fiscale est mise à mal par un rapport de l'OFCE qui montre que la politique menée depuis 2018 a surtout favorisé le pouvoir d'achat des plus riches au détriment des plus modestes. Comment expliquez-vous au gouvernement ce qui apparaît comme une incohérence entre le discours et les actes du gouvernement?
Déjà, vraiment, j'appelle tous ceux qui nous écoutent à prendre cette étude de l'OFCE avec immensément de précautions.
Pourquoi ce sont des économistes réputés?
Oui, enfin, ce sont des économistes qui, dans leurs études, ne tiennent pas compte de la prime d'activité. Ce sont des économistes qui, dans leurs études, ne tiennent pas compte d'un ensemble d'accompagnement social que nous pouvons faire, par exemple, sur des dispositions de la sécurité sociale, par exemple, les lunettes, les prothèses auditives à 1 euro. Toutes ces mesures-là, comme par hasard dans le rapport de l'OFCE, elles ne sont pas prises en compte par ces économistes. Donc j'appelle...
Donc vous dites c'est un mauvais boulot.
Oui,
cette étude est un mauvais boulot.
Je dis qu'en tout cas, elle n'est pas exhaustive, et ce qui pose problème quand vous vous réputez être des économistes de premier rang. Ceci étant dit, c'est quoi la politique qu'on mène ? La politique qu'on mène, effectivement, elle est de redonner du pouvoir d'achat, notamment aux classes moyennes qui ont été, objectivement, tout le monde peut l'admettre, les parents pauvres des politiques publiques depuis des décennies. C'est-à-dire, c'est toujours à ces classes moyennes à qui on allait prendre de plus en plus ou augmenter de plus en plus les impôts. Premier point. Et puis, deuxième point, et moi je l'assume totalement, vous savez ce que c'est que la meilleure des protections sociales dans notre pays ? Ce qui permet de lutter le plus efficacement contre la pauvreté, ce ne sont pas les minima sociaux, c'est le travail. C'est donner aux gens du boulot. C'est ça qui vous permet de sortir définitivement de la pauvreté.
Alors effectivement, donc, il y a un léger mieux dans les chiffres de l'emploi.
C'est pas un léger mieux, mais c'est pas un léger mieux, c'est un énorme mieux. On a créé 500 000 emplois, on est passé sous les 9%, mais souvenez-vous, il y a deux ans, on nous demandait...
L'INSEE dit 210 000 créations de postes en 2019, c'est le meilleur cru par rapport à l'année précédente.
Et depuis le début du quinquennat, c'est 500 000 postes de créés. Mais qui aurait dit ça il y a deux ans ? Qui aurait dit ça ? Alors, et souvent, on l'oublie d'ailleurs. Mais je peux vous dire que ces 500 000 personnes qui ont retrouvé du boulot, je pense qu'ils sont très très contents aujourd'hui de pouvoir durablement s'inscrire dans un pouvoir d'achat retrouvé.
Y a-t-il encore une Macronie homogène ? En mars 2016, vous avez créé le mouvement En Marche, vous en êtes devenu le secrétaire général adjoint, vous avez tenu le mouvement à bout de bras. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a un peu de dispersion dans les rangs, des tensions. Est-ce que ça n'a pas été accentué aussi au moment des élections européennes ?
Moi, je pense qu'on est un groupe. Et vraiment, je voudrais saluer notamment le... Parce que trop souvent, ils sont critiqués, ils sont parfois caricaturés. Et je trouve ça à la fois scandaleux et tellement non respectueux du travail et du courage qu'ils ont. Je voudrais saluer le travail fait par nos parlementaires, et notamment nos députés, qui subissent des violences. Les députés de La République En Marche, et d'ailleurs beaucoup d'élus locaux de d'autres formations politiques, qui subissent de vraies violences au jour le jour ou des intimidations. Alors, on nous dit, oui, mais regardez, ici, vous avez telle ou telle personne qui a une voix plus forte et qui s'oppose à telle ou telle chose. Moi, je pense qu'on a vraiment un collectif, contrairement à ce que beaucoup disent.
Un collectif, mais est-ce qu'il y a assez de leaders ?
Oui, enfin je crois, mais un collectif qui est tourné vers des objectifs très clairs, vers une vision très claire de cette politique sociale que j'évoquais, la valeur du travail, de ce combat pour l'écologie, de ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, bref, un socle de valeurs. Alors maintenant, on a plus de 300 députés. Certaines viennent d'horizons très différents, certaines viennent de la droite, d'autres de la gauche. C'est d'ailleurs ça, le macronisme, le en même temps. On partage des valeurs, mais on n'a pas forcément... on vient pas forcément du même endroit, mais on partage ces valeurs, on sait où on veut aller ensemble, même si on vient pas du même endroit. Et donc, de là, vous avez des voix qui s'expriment en disant, moi j'aurais plutôt fait ça, ou plutôt fait ça, etc. Bref, moi ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a un collectif, on sait où on veut aller, il y a une majorité qui est solide. Et
une majorité solide, mais qui se fait tenser parfois par l'exécutif, on l'a encore vu sur le texte sur le congé parental lors d'un décès d'un enfant, il y a eu comme un raté pointé par l'exécutif. Tout ça contribue parfois à un sentiment de mauvaise compréhension mutuelle entre l'exécutif et les parlementaires.
Vous êtes d'ailleurs vous-même exprimé sur le sujet.
Oui, mais... d'incompréhension mutuelle, j'irai pas jusqu'à là, et que ici ou là il puisse y avoir des ratés, ça arrive à tout le monde, ça arrive
il
partout.
Il se cumule les ratés en ce moment.
Peut-être, et donc ça nous oblige encore plus à
la circulaire Castaner qui a été retoquée.
Mais peut-être, et ça nous oblige encore plus à y mettre fin.
Sentiment d'improvisation qui se confirme parfois.
Non, ça je pense que on peut nous faire beaucoup de critiques, mais le côté d'improvisation ou le côté de pas faire ce qu'on a dit qu'on allait faire ou du côté on veut pas réformer, qui est la petite musique aujourd'hui de nos opposants politiques. Regardez dans tous les textes ou dans toutes les interviews qu'ils font, c'est ils sont incapables de réformer, ils veulent pas réformer, ils veulent plus réformer. Trouvez-moi un gouvernement qui en deux ans et demi avons autant réformé. On fait peut-être pas tout bien, mais je peux dire qu'on essaye de transformer le pays parce que notre pays en a besoin. Et c'est comme ça qu'on fait... qu'il y a 500 000 personnes qui ont retrouvé un boulot dans notre pays depuis deux ans.
À propos des prix d'esprit d'équipe au sein du gouvernement, on lira ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France comment la polémique sur l'allongement du congé parental pour le deuil d'un enfant a mis au jour une guéguerre larvée entre les deux ministres, Marlène Schiappa et Muriel Pénicaud. C'est bien quand même le signe d'une certaine tension, on lira ça ce matin dans la presse. Une certaine fatigue au sein du gouvernement.
Non. Non, et franchement, c'est en plus, ça a très 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 peu d'intérêt. Moi, je connais très bien les deux. Il s'avère que Muriel Pénicaud et Marlène Schiappa, d'ailleurs l'article du Parisien y fait écho, sous-entendraient des choses où moi, en plus, je suis la troisième personne parce que
oui,
je travaille
avec
eux. Oui,
parce que ça concerne aussi bon, notamment l'étude dont
on a parlé au début. Je le vis de l'intérieur et je peux vous dire que on a une vraie équipe. Alors maintenant, est-ce que ici ou là, vous en avez certains qui font des petits commentaires et qui s'amusent à décrire des relations? Voilà, c'est la vie du commentaire. Objectivement, il n'y a pas de sujet. Je peux vous dire qu'il n'y a qu'un seul truc qui nous intéresse, c'est d'être au boulot en ce moment.
Les municipales, dans quelques semaines, l'exécutif estime que les ministres candidats malheureux aux municipales pourront rester au gouvernement. Est-ce que ça peut, chez vous, Julien de Normandie, créer une vocation locale?
Moi, à titre personnel?
Oui.
Non, moi, je ne me présente pas sur une liste. Je m'engage beaucoup dans les municipales, notamment je m'engage beaucoup vis-à-vis des villes où il y a un risque de basculement au Front National. J'étais à Dreux, j'étais dans le Nord, Pas-de-Calais, ces 10 derniers jours, les 2 derniers week-ends qui précèdent notre échange ce matin, parce que je pense que effectivement il y a beaucoup de villes où il y a un risque Front National. Donc j'ai décidé de m'investir à ce titre dans les municipales.
À Cahors, il y en a pas.
là où vous êtes.
C'est là où je suis né.
Vous êtes né. Je vous presse un peu, il reste quelques minutes. Parmi les thèmes favoris des municipales, il y a la végétalisation des villes promise par bon nombre de candidats. Alors vous, ce sont carrément des villes entières hein, que vous souhaitez voir devenir durables. Ce projet, ça repose sur quoi ?
Ben moi, je crois profondément aujourd'hui que nos modèles de développement urbain, ils sont interrogés.
Les modèles ?
Ouais, vous savez, c'est cette ville qui est toujours plus périphérique, toujours plus XXL, toujours le plus gros supermarché possible à côté de la zone pavillonnaire.
Donc on change de paradigme, on inverse les priorités.
Mais vous rendez compte que dans notre pays, toutes les heures, c'est l'équivalent de 5 terrains de foot qui est urbanisé. Toutes les heures. Et je crois que ça interroge notre société, ça interroge aussi beaucoup la nouvelle génération. Moi, j'ai 4 enfants qui ont un regard très différent aujourd'hui sur la ville que nous pouvions avoir.
C'est-à-dire que vous voulez moins de maisons individuelles?
Moi, je veux surtout, dans certaines zones, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de revitaliser le centre-ville, beaucoup plus. Et donc, j'ai lancé des politiques en ce sens, par une grosse politique, Action Cœur de Ville. Je ne laisserai pas faire ces villes dites de taille moyenne où le centre-ville périclite, parce que vous avez plus de petits commerces, des logements vacants, parce que tout s'est installé en périphérie.
Tout le monde le dit depuis des décennies.
Ouais,
ça,
sauf que moi, j'ai deux preuves d'amour, si je puis dire. Le premier, cette opération Cœur de Ville, 5 milliards d'euros, on en a déjà déboursé un. C'est 222 villes
donc
qui ont des programmes.
Donc c'est l'État qui paye.
L'État et ses partenaires comme Action Logement. Et deuxièmement, j'ai créé un dispositif fiscal. Je dis tout investisseur qui veut investir dans l'immobilier dans notre pays, utilisez ce dispositif fiscal, ça s'appelle le De Normandie dans l'ancien. Ça vous permet de défiscaliser, mais ça vous permet aussi d'inciter à rénover du logement dans le centre-ville de nos belles villes de France. Et je crois que c'est important.
Il nous reste une question, je vous la pose par l'intermédiaire de Marie qui nous envoie ce courriel. Il n'y a pas assez de logements intermédiaires à Paris, pourquoi ne pas geler les loyers? Ça remet au goût du jour les loyers 48 quand on a bloqué les bas loyers pour pas qu'ils augmentent. Ces loyers 48 sont-ils encore actifs à Paris? Y a-t-il moyen de généraliser ça?
J'ai, par la loi, réintroduit l'encadrement des loyers. Qui est une mesure à peu près analogue à celle que évoque votre auditrice. Et donc cet encadrement des loyers, il nécessitait de réécrire la loi, chose que nous avons faite, de prendre un décret, ce qui a été fait l'été dernier. Et donc aujourd'hui, il revient en application dans une ville comme Paris, mais aussi à Lille, parce que je pense qu'effectivement la question posée est essentielle. Il faut des classes intermédiaires dans toutes les villes. Faire une ville, c'est faire société. Et faire société, c'est la représenter dans toute sa diversité.
Les propos de Julien de Normandie, ministre chargé de la ville et du logement. Merci d'être venu le
dire
ce matin sur
Merci
France Inter.